capté par son receveur, touché, rouge et or!
Le Rouge et Or accueille ses grands rivaux, les Carabins de l'Université de Montréal, avec le premier rang de la division en jeu, ce dimanche 17 septembre à 13h. Ne manquez pas l'avant-match dès 12h30 avec notre équipe composée de Pascal Loubier, Victor Marchand et François Dumas. Rouge et Or, Carabins, ce dimanche 13h sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle du Rouge et Or de l'Université Laval.
Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue, votre émission nationale d'actualité locale. Boris Chassaigne qui vous accompagne. Aujourd'hui, on pouvait passer sous silence la période de la rentrée scolaire. Pour en parler, on se dirigera vers la région de Toronto où le gouvernement conservateur de Doug Ford tente de se faire pardonner les écarts qu'il s'est permis envers la communauté francophone de la province en annonçant notamment 110 places supplémentaires en enseignement.
Ouais, on s'est aperçu très rapidement en annonçant notre bac, notre nouveau programme de baccalauréat en éducation en janvier, qui avait énormément d'engouement pour le programme. On a reçu presque 150 demandes avec 40 places financées. Donc, on a travaillé avec nos collègues du ministère des collèges et universités pour en leur demandant d'augmenter, en fait, de doubler le nombre de places pour des étudiants. Puis c'est ce qui est arrivé. C'est vraiment un beau succès.
Et puis, plusieurs régions du Maroc ne sont plus que des champs de ruines. Depuis le séisme qui a frappé le pays le 8 septembre dernier, à Edmonton, en Alberta, la communauté marocaine est encore sous le choc. Une jeune Marocaine arrivée il y a à peine 3 mois au pays se livre au micro d'Elie Nkoulou.
C'était très difficile de joindre nos familles au Maroc, ce qui nous a vraiment inquiétés. On ne savait pas ce qui se passait, même si nos familles habitaient loin de la ville où s'est produit ce séisme. C'était vraiment dur pour nous de vivre ça à distance, de ne pas avoir de nouvelles.
Et les Marocains de Montréal se mobilisent eux aussi. Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays. Merci de nous tenir compagnie. Une Marocaine d'Edmonton lance un appel à la mobilisation suite au séisme qui a frappé son pays d'origine le 8 septembre dernier. Le Maroc pleure ses morts, la catastrophe qui a frappé au sud-ouest de Marrakech. Un séisme qui aurait tué au moins 2700 personnes, fait des milliers de blessés et encore plus de traumatisés. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, multiplient encore leurs efforts en vue de retrouver d'éventuels survivants et pour venir en aide, bien sûr, aux sans-abri qu'on ne compte plus. Ce tremblement de terre a provoqué un élan de solidarité mondiale. Plusieurs pays ont proposé leur aide. La communauté marocaine du Canada se mobilise également pour collecter des fonds depuis le premier jour de la catastrophe. Elie Nkoulou en parle avec Fatine Tari à Edmonton.
Bonjour Fatine.
Bonjour.
Comment vivez-vous cette situation au fait?
Alors effectivement, je viens d'arriver au Canada il y a à peu près 3 mois, donc déjà le fait de vivre loin de sa famille est un peu difficile, on va dire. Et surtout quand on reçoit des nouvelles pareilles sur les réseaux sociaux. Premièrement, parce que moi, j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux vendredi soir et j'ai essayé de contacter ma famille. Mon mari a fait pareil et on avait du mal à les joindre car malheureusement, il y avait eu une coupure de réseau. Donc, c'était très difficile de joindre nos familles au Maroc, ce qui nous a vraiment inquiétés. On ne savait pas ce qui se passait, même si nos familles habitaient loin de la ville où s'est produit ce séisme. Mais malheureusement, ça a touché tout le Maroc. Tout le monde l'a ressenti, tout le monde a vécu la peur ce soir-là parce que c'était vraiment tard le soir, c'était à 23h30 à peu près, donc c'était vraiment dur pour nous de vivre ça à distance, de ne pas avoir de nouvelles. On a vraiment eu des nouvelles à peu près 4 heures après. On sait pas ce qui se passe, on est triste pour ce qui se passe au Maroc, mais heureusement grâce aux réseaux sociaux on arrive à avoir certaines nouvelles, on arrive à suivre ce qui se passe à distance, mais ça reste quand même très difficile de vivre ça loin de nos proches et loin de notre pays.
Vous savez, dans les actualités, on a appris que plusieurs personnes ont quitté leur maison, quoique ils n'étaient pas peut-être vraiment en danger, mais ils ont quitté leur maison pour se mettre dans un lieu plus sécurisé, c'est-à-dire où ils savent que quelque chose ne va pas tomber sur lui lorsque peut-être ça pourra arriver. Et des gens ont dormi dehors, ça a été vraiment une panique totale au niveau du pays.
Effectivement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'heure où le séisme a frappé, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait réellement. Mes parents, ils habitent très loin, ils habitent à peu près 400 ou 300 et quelques kilomètres, et ils ont vraiment senti ça. Ils ont passé la nuit à l'extérieur, comme la plupart des résidents de la ville. Les gens se sont tous réfugiés dans des parcs, dans des jardins, où il n'y a pas des choses qui pourraient les inquiéter, à savoir des immeubles, des arbres, des poteaux d'électricité, parce que le premier réflexe qu'on a, c'est vraiment de s'éloigner de toute chose qui peut s'effondrer. Et donc, toutes les familles ont passé la nuit à l'extérieur. Moi, par exemple, mes parents, ils ont eu le réflexe juste de sortir sans prendre leur téléphone. C'est là où ma mère s'est rendue compte qu'elle n'a pas donné de nouvelles, donc elle est revenue à la maison rapidement juste pour récupérer le téléphone et ressortir ensuite, aller rejoindre mon père à l'extérieur. Donc, le fait de vivre ça, c'est vraiment très, très difficile.
Effectivement, et c'est compréhensible, comme vous venez de le souligner, il semble que ce séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis 1960.
Effectivement, on a déjà vécu un autre séisme, en fait, pas moi particulièrement, mais le Maroc a déjà vécu un autre séisme il y a plusieurs années, dans une ville qui n'est pas très loin de là où s'est passé ce séisme cette année. Et malheureusement, il y avait toute la ville qui a été détruite, il y avait eu quasiment plus de 15 000 morts pendant ce séisme-là, c'était vraiment très dévastateur. Mais là, ce séisme-là, il a vraiment touché des villages et des familles qui n'ont vraiment rien à la base. C'est-à-dire que moi, je connais certaines personnes de ces familles-là. Je faisais beaucoup de voyages humanitaires avec des associations marocaines avant de venir ici. Et on visitait beaucoup ces villages-là. C'est des personnes qui n'ont rien, mais qui donnent beaucoup. Ils sont vraiment chaleureux, ils nous accueillaient, ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient, même s'ils n'avaient rien. C'est-à-dire le peu de choses qu'ils avaient, ils nous le donnaient en retour de ce qu'on leur faisait. Et le fait de voir cela, ça nous touchait vraiment. Et le fait de savoir que c'est vraiment ces villages-là et ces familles-là qui ont été touchées me touche particulièrement et touche quasiment toutes les personnes qui sont parties au Maroc ou qui n'ont jamais visité le Maroc. Le fait juste de voir les vidéos sur les réseaux sociaux, ça touche particulièrement tout le monde.
Et d'une certaine manière, c'est comme si vous aviez développé certains liens ou affinités avec les communautés qui ont été directement frappées.
Exactement. On rencontrait les familles là-bas, on gardait leur contact pendant toute l'année pour savoir ce dont ils avaient vraiment besoin pour vivre là-bas. C'est des villages qui sont reculés, ils n'ont même pas accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni à rien du tout. C'est vraiment des personnes qui vivaient dans une situation très dure.
Ici à Edmonton, y a-t-il des actions en prévision que la communauté marocaine d'ici prévoit en faveur des familles en détresse au pays?
Je sais qu'ici au Canada, il y a plusieurs personnes qui ont mis en place des fonds. C'est des collectes à travers Interact ici au Canada et qui sont reversées à une personne en particulier qui habite à Ottawa. Elle est en contact avec plusieurs associations marocaines et donc tous les fonds, ils vont être reversés à ces associations-là. Moi, pour ma part, la vérité, j'ai fait un don directement au Maroc depuis mon compte bancaire marocain, mais je pousse les gens ici au Canada, que ce soit marocain ou non marocain, à aider ces personnes-là et à contribuer à cela. Il y a le compte du gouvernement qui est mis en place et tous les dons à l'échelle internationale peuvent être envoyés. Et on voit aussi la solidarité de tous les Marocains qui habitent en Europe également. Ils ont récolté un maximum de dons en nature qui ont été envoyés à travers des conteneurs jusqu'au Maroc pour pouvoir aider ces gens-là. Parce que oui, en ce moment, on est en train de les aider sur le côté dans nature, dans financier, pour qu'ils puissent manger en premier lieu, qu'ils puissent être secourus. Il y a certains villages qui n'ont même pas été atteints jusqu'à maintenant. Malheureusement, l'hiver, il arrive à grands pas et ils n'ont même pas de toit. Ils vivent sous des tentes et il y a même certains villages qui n'ont même pas encore reçu ni de tente ni de couverture. Et ça, c'est vraiment dur à vivre parce que nous, on vit dans un confort ici ou ailleurs. On a nos maisons, on a de quoi se nourrir, de quoi se loger, etc. Mais ces personnes-là ont vraiment besoin de notre aide en ce moment-là. Et nous, en tant que Marocains, on essaie de faire notre maximum pour pouvoir les aider. J'espère que toutes les communautés, peu importe la nationalité, peu importe la religion, puissent aider ces personnes-là, car ils en ont vraiment besoin.
Fatine Tahari, je vous souhaite un très bon courage dans les défis que vous traversez en ce moment.
Merci beaucoup, au revoir.
Eline Koulou, journaliste pour EJL.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Et la communauté marocaine de Montréal s'est-elle aussi mobilisée au jour 1 de la catastrophe qui a frappé de plein fouet la province d'Al Haouz au sud-ouest de la ville de Marrakech? La situation évolue de jour en jour et est peut-être en ce moment bien différente de celle qu'on vous décrit ici aujourd'hui, mais la situation reste très grave. La Croix-Rouge internationale qui note que les besoins du Maroc vont s'étendre sur des mois, voire des années, et on met les citoyens et les organismes en garde contre le désir d'envoyer des biens matériels. Les dons en argent seraient plus utiles, même s'ils transitent directement vers les comptes bancaires de la Banque nationale du Maroc, propriété du gouvernement. Les commentaires de Rachid Najahi, journaliste et directeur général du journal Atlas Media, très impliqué dans la communauté marocaine. Il fait le point sur la situation au micro de Mourad Mamli à Montréal.
Jusqu'à date, ce sont quatre pays qui ont accès. C'est l'Espagne, l'Angleterre, les Émirats arabes unis et le Qatar, je pense. Okay. Donc, d'autres pays, il y a des demandes. Le Maroc n'a pas encore fait de demande officielle pour que ces gens rentrent. Mm-hmm. Parmi ces pays, il y a les États-Unis, la France, il y a d'autres pays qui sont prêts à y aller. Mais le Maroc, il n'a pas encore donné l'autorisation à ces pays de rentrer. Il veut commencer par évaluer la situation, évaluer les besoins, savoir... il veut éviter les erreurs que d'autres pays ont commises dans le passé. Mm-hmm. Ça veut dire on accepte tout le monde et là, ça devient l'anarchie totale. Donc le Maroc est en train d'étudier qui va venir et qui ne peut pas venir selon ses besoins à lui.
Comment la communauté s'organise? Je sais qu'il y a pas mal d'appels à la solidarité et je sais que le Québec et le Canada sont très solidaires. Comment ça se présente, vous qui êtes sur le terrain?
Ça se présente très bien. Il y a beaucoup d'initiatives. Depuis le vendredi 23h heure du Maroc, qui était à peu près 19h ici, donc les gens ont commencé à s'organiser. Il y a des appels d'aide, des appels de ramasser l'argent, des vêtements et tout ça. Moi, personnellement, j'étais en contact avec des gens placés au Maroc pour parler de la meilleure façon comment les Marocains du Canada ou les Marocains du monde peuvent aider, peuvent intervenir. C'est que le Maroc ouvre un compte spécial pour les donations. Et c'est le même principe qu'on avait pendant le corona. Le Maroc a un compte spécial et les gens donnent l'argent dans son compte et c'est le gouvernement qui gère cet argent. La Croix-Rouge aussi, ils ont fait ça. Ces gens-là qui veulent ramasser pour eux des ventes de garage, envoyer des vêtements, nous on dit à ces gens-là, faites pas ça s'il vous plaît. Il y a des gens qui amènent un manteau vieux de 5 ans qui dans son placard, ils veulent l'envoyer pour aider un jeune là-bas qui n'a pas de manteau. Non, ça marche pas comme ça parce que le Maroc, il n'accepte aucun vêtement usagé qui rentre là-bas sur place. Il y a des conteneurs qui sont partis, qui ont resté bloqués sur place et les gens qui étaient derrière l'initiative, ils ont reçu des factures pour l'entreposage des conteneurs. Alors on dit aux gens-là, faites pas ça s'il vous plaît, il y a des façons plus efficaces, plus officielles, plus sérieuses. Il y a un compte bancaire qui est du gouvernement marocain où les gens peuvent faire des virements d'ici ou de n'importe quel pays dans le monde. Et les deux associations qui sont très crédibles, qui travaillent depuis des années, les orphelins, qui travaillent avec les gens pauvres, ils envoient, comme le soleil des orphelins, l'association que chaque année, on voit l'année passée, où je pense il y a deux ans, ils ont reçu 800 000 $ en argent pour aider les orphelins. Donc, et ces gens, cette association peut donner un reçu de retour d'impôt. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, vous, les gens, s'ils veulent aider, il y a deux options. Il y a le compte bancaire, où les gens peuvent envoyer l'argent, ou passer par l'association sur les deux orphelins. Et là, l'argent arrive à destination sûre et certaine.
Si on veut faire un don comme ça sur Internet, dans ce cas, on va aller sur le site du gouvernement.
Mm-hmm. C'est Banque Al-Maghreb, c'est la Banque du Maroc. Oui. C'est ce que la Croix-Rouge a dit ce matin. Mm-hmm. Un responsable de la Croix-Rouge a dit, nous, ne n'envoyez pas du matériel, envoyez-nous de l'argent. On va acheter sur place, on va aller en Algérie, en Tunisie, en Espagne, et ça coûte moins cher. Au lieu de dépenser l'argent pour le transport, c'est mieux d'aller acheter sur place. Il y a des gens qui connaissent le terrain, qui savent de quoi ils ont besoin. on peut s'adresser à la Croix-Rouge canadienne, comme on peut aller directement sur le site, parce que l'avantage d'aller sur le Banque Al-Maghreb, c'est qu'il n'y a pas de commission. On sait très bien comment ça marche les autres organismes pour les donations. Ils prennent des frais de gestion, une commission sur ça. Donc, tu donnes 100 dollars, c'est pas 100 dollars qui va arriver à destination. Par contre, avec Banque Al-Maghreb, tu donnes 100 dollars, tu sais que le 100 dollars arrive au complet.
Et tu vas voir ton reçu, con quoi tu as fait ton dépôt et tout ça.
Ah oui, tout est clair. Moi, depuis hier, on avait lancé la formation et les gens faisaient des dons, ils m'envoyaient les screens de l'argent qu'ils ont envoyé. Exact. C'est clair, le montant exact et tout ça. Et c'est facile, c'est 2 minutes, l'argent est sur le compte.
Merci beaucoup, monsieur Najahi. Bon courage aussi. Et je rappelle que monsieur Rachid Najahi, le directeur général de Atlas Media.
Merci, Morad. Merci. Bonjour.
Au revoir.
Changement de cap et retour à l'actualité au pays pour vous parler d'éducation. On vous avait promis dans notre sommaire de souligner la rentrée scolaire. On effectue ici le premier de 2 arrêts en Ontario. D'abord à Toronto, où le gouvernement de la province annonce qu'il va financer 110 places supplémentaires dans la formation en éducation francophone. Les nouvelles places à l'Université d'Ottawa et à l'Université de l'Ontario français basée à Toronto, cette dernière en tout cas basée à Toronto, aideront à pallier les pénuries de personnel enseignant dans des écoles de Toronto et de l'Est de l'Ontario, affirme le gouvernement. Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones ontariennes, en a fait l'annonce dans l'Agora de l'Université de l'Ontario français de Toronto, en compagnie de Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités, et de l'honorable Stephen Letch, ministre de l'Éducation. Ces 110 nouvelles places vont permettre à l'UOF de doubler les places ouvertes en janvier pour la formation à l'enseignement. Notons que l'ajout de places supplémentaires en formation à l'enseignement à l'Université de l'Ontario français sera financé par l'entente Canada-Ontario sur l'établissement de l'Université de l'Ontario français. Une bonne nouvelle donc qui se faisait rare pour la communauté francophone ontarienne. L'Université de Sudbury qui vient tout récemment d'essuyer un refus à la demande de financement qu'elle avait déposée il y a quelques mois pour devenir une université complètement francophone de Toronto. Voici Marine Ottogali.
La ministre des Affaires francophones et récente présidente du Trésor, Caroline Mulroney, était présente aux côtés de Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités, Stéphane Lecce, ministre de l'Éducation, pour annoncer le financement de 110 places supplémentaires pour former de nouveaux enseignants francophones et bilingues dans l'Ontario de l'Est et ici à Toronto.
Aujourd'hui, c'était une annonce très heureuse et importante pour la francophonie ontarienne. On parle bien sûr de nouveaux espaces pour les enseignants francophones. On a une pénurie d'enseignants francophones en Ontario, mais aussi à travers le pays. Avec 86 nouveaux sièges qui sont déjà pleins, c'était une annonce très heureuse et j'ai pu travailler très bien avec mes collègues en éducation et en collège, au ministère du Collège et Université pour que ce soit une réalité.
À la suite du refus de financer l'Université de Sudbury il y a quelques mois, la ministre des Affaires francophones a annoncé à Toronto le financement de 110 places dans les formations en éducation pour l'année académique 2023-24 avec le soutien du gouvernement du Canada. 40 places sont financées à l'Université de l'Ontario français et 70 à l'Université d'Ottawa. Avec plus de 30 000 étudiants impliqués dans des programmes francophones ou bilingues dans la province, le financement s'élève à 70 millions de dollars chaque année pour assurer ces enseignements, a-t-elle expliqué. Pour Pierre Ouellette, recteur de l'UOF, l'annonce est une suite logique, notamment à la pénurie des enseignants de langue française.
Ouais, on s'est aperçu très rapidement en annonçant notre bac, notre nouveau programme de baccalauréat en éducation en janvier, qu'il y avait énormément d'engouement pour le programme. On a reçu presque 150 demandes avec 40 places financées ou 40 places prévues. Donc, on a travaillé avec nos collègues du ministère des Collèges et Universités pour en leur demandant d'augmenter, en fait, de doubler le nombre de places pour des étudiants, puis c'est ce qui est arrivé. Donc, pour la rentrée cette année, on a 86 étudiants, 86 étudiantes, et on est très, très fiers. C'est vraiment un beau succès.
Donc, en fait, les 40 places annoncées aujourd'hui, c'est 40 places supplémentaires par rapport à ce que vous aviez déjà ouvert en janvier.
Exactement. Mais en fait, en janvier, on a annoncé qu'on ouvrait 40 places à partir de septembre cette année. Et on s'est aperçu qu'il y avait tellement de demandes qu'on a demandé au ministère de doubler le nombre de places et ils nous ont accordé la permission d'aller à 80.
Est-ce que c'est votre élan qui a permis à Ottawa de bénéficier de ces sièges ou c'était déjà une discussion avec Ottawa, avec l'Université d'Ottawa, je veux dire?
Il faudrait demander à l'Université d'Ottawa, mais je pense que c'était déjà... Il y avait déjà un momentum à l'Université d'Ottawa aussi. On sait, puis c'est connu maintenant qu'il y a de la pénurie dans le milieu de l'enseignement. Donc, les gens s'y intéressent, je pense, un peu plus naturellement. Donc, je pense qu'il y avait déjà un engouement aussi pour les programmes à l'Université d'Ottawa, mais il faudrait vérifier avec eux.
Quid des autres formations ici? Est-ce que vous avez aussi des besoins, envie d'augmenter des sièges parce que vous voyez que les demandes augmentent dans les autres formations?
Bien, les autres formations continuent de grandir. On continue d'aller chercher des nouveaux étudiants pour nos autres programmes aussi. Mais on a d'autres programmes qui s'en viennent. Donc, on devrait faire des annonces, on espère, dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Et puis, est-ce que l'annonce de cette nouvelle ministérielle qui se fait à l'UOF, pour vous, c'est quand même une visibilité supplémentaire? C'est quelque chose qui vous semble naturel ou ça fait plaisir que les ministres se déplacent?
Bien, si on compte le succès en nombre de ministres pour faire une annonce, je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand succès pour nous. On est vraiment très, très contents d'avoir le ministre de l'Éducation, la ministre des Collèges et Universités, puis bien sûr, la ministre des Affaires francophones, qui est une grande alliée de l'UOF, qui était ici aujourd'hui pour faire l'annonce. Donc, je voyais beaucoup de sourires de la part du personnel puis des autres personnes, les membres de la communauté aussi, qui savent toute la pénurie, le besoin qu'on a de créer plus de places dans des programmes comme ceux-là pour mettre plus d'enseignants et d'enseignantes dans les salles de classe.
L'honorable Stéphane Lecce a rappelé que nous fêtons les 25 ans d'éducation francophone et a salué la fierté de la communauté franco-ontarienne. L'annonce faite par les ministres de la province fait partie d'un programme gouvernemental de 4 ans dans le cadre d'une stratégie de recrutement pour les systèmes éducatifs francophones et anglophones, pour lequel 12,5 millions de dollars sont consacrés. C'était un reportage de Marine dans le cadre d'Initiative Journalisme Local.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Restons en Ontario où une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, comme on dit. La députée provinciale de Mississauga Centre avait de bonnes nouvelles pour les francophones de la région de Simcoe-Muskoka, entre le lac Ontario et la baie géorgienne du lac Huron. Madame Kusendova, qui est aussi l'adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, était bien fière de confier à notre journaliste Hubert Héberge que le gouvernement ontarien allait embaucher 2000 nouveaux enseignants cette année et ainsi réaliser ce que les Québec espèrent faire au cours des prochaines années. Madame Kusendova s'est entre autres montrée optimiste concernant la pénurie de main-d'œuvre dans les écoles, ainsi que sur la hausse du prix des maisons. Voici Madame Kusendova parlant de francophonie en Ontario au micro de Hubert Héberge à Penetanguishene.
Cet été, ce printemps, j'ai eu l'opportunité de visiter beaucoup de communautés francophones à travers l'Ontario, par exemple dans la région de Niagara, Ottawa, Barrie, même la rivière des Français dans le nord, et aussi bien sûr les communautés locales comme à Mississauga, Brampton, à Toronto et Oakville. Ce que je peux constater, c'est que la francophonie en Ontario est très vibrante et très diverse. On a des nouveaux immigrants qui arrivent des pays africains, des pays francophones. Alors je dirais que le visage de la francophonie est en train de changer. Et il y a aussi une nouvelle richesse culturelle des pays africains qui est apportée avec ces nouveaux arrivants. Alors, c'est un accroît dans la communauté francophone de l'Ontario. Par son dynamisme, sa diversité et son ouverture sur le monde, la francophonie ontarienne est une source de fierté et d'enrichissement pour notre province.
Il y a une pénurie de personnel un peu partout au Canada, je t'ai pour dire en Ontario, mais dans tous les secteurs, particulièrement ceux qui sont liés aux services francophones, comme les écoles et les services de garde. Est-ce qu'on peut espérer de l'aide du gouvernement provincial dans ces secteurs pour faciliter le recrutement de personnel?
Oui, alors on travaille très près avec M. Lecce, le ministre d'Éducation, et nous avons travaillé avec les partenaires de l'éducation en langue française à la mise en œuvre de notre stratégie de recrutement et de maintien des enseignants de français. Alors, notre gouvernement prend des mesures pour moderniser, orienter le système d'éducation de l'Ontario afin d'améliorer les résultats des élèves en renforçant les compétences fondamentales comme la lecture, l'écriture et les mathématiques. Peut-être vous avez entendu le ministre parler de « back to basics ». Alors, pour nous, les basics, ça veut dire la lecture, l'écriture et les mathématiques. Et on va embaucher plus de 2000 d'enseignants dans notre système de scolarité cette année, vraiment pour soutenir les efforts. Et particulièrement quand on parle de système de scolarité francophone, depuis 2020, notre gouvernement a investi 221 millions de dollars pour soutenir la construction et l'acquisition de 17 nouvelles écoles de langue française et 8 ajouts ou réaménagements permanents. Et aussi, on a ajouté presque 1 000 places dans les services de garde d'enfants agréés au sein des comités scolaires de langue française.
Merci beaucoup, Mme Kusendova. C'était Hubert Héberge pour le programme Initiative de journalisme local.
Et pour conclure cette émission, on pose notre valise à Peace River en Alberta, où les évacués des feux de forêt qui y étaient hébergés rentrent tranquillement chez eux. Notre journaliste des territoires du Nord-Ouest avait lui aussi été évacué en Alberta. Le centre d'accueil de Peace River, qui avait accueilli le mois dernier plus de 1000 déplacés, se vide tout doucement, mais pas complètement. Le reportage d'Imelda Wafak en poste à Rivière-la-Paix en Alberta.
Le centre d'accueil de la ville de Peace River se vide progressivement avec le départ des évacués de feux de forêt. À en croire les témoignages des sinistrés, leur séjour à Peace River était très apprécié. Ils ont remercié le personnel de Baytex Energy Center et les habitants de Peace River pour l'accueil chaleureux. Benjamin Prohl, coordonnateur de la communication.
Ouais, alors maintenant, il y a beaucoup d'évacués qui retournent à leur maison. Il y avait plus de 1000 personnes qui restaient avec nous qui venaient du nord jusqu'à ce même passé, je dirais. Alors maintenant, c'est un peu différent, où il y a beaucoup de personnes qui restent encore avec nous, mais pas autant. Puis il y a aussi beaucoup de personnes qui passent à Peace River en route d'aller à leur maison. So, c'est un peu différent, mais les personnes qui restent avec nous nous disent toujours comment bon que c'est, puis comment gentil que tout le monde est à Peace River, alors que c'est vraiment bon d'entendre.
Le mois dernier, il y avait environ 1000 personnes qui ont été reçues au centre des évacués de Peace River.
Oui, il y en a, mais c'est pas la même situation. Ils registrent avec nous parce qu'ils doivent le faire. Alors, il y en a qui sont encore avec nous.
Le personnel de Peace River travaille en étroite collaboration avec le gouvernement provincial et fédéral pour assurer un meilleur hébergement des évacués de feux de forêt.
On travaille avec les gouvernements provinciaux et fédéraux, puis on travaille aussi avec les personnes qui aillent les hôtels puis les restaurants ici. Il y a des personnes qui restent avec des amis qui savent, mais il y a la plupart qui restent au hôtel, au motel, puis ils font du camping aussi. Et c'est toujours dangereux de dire que quelque chose est fini quand ça vient au feu, mais pour maintenant, on pense au moins qu'il y en a beaucoup qui sont finis.
Email d'AWFEC et IGL.
Voilà, c'est déjà tout pour nous cette semaine. Nos reporters en Ontario, Marine Togali et Hubert Héberge, Mourad Mamli à Montréal et au Québec, Éline Koulou et Imelda Wafak en Alberta, coordonnateur national Stéphane Bénard à Moncton. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation à Montréal. Venez nous voir sur canada-info.ca. Des centaines de reportages produits par nos journalistes francophones, anglophones et hispanophones postés d'un bout à l'autre du pays vous y attendent. On vient de perdre celui qui était en place à Yellowknife. Merci à Raphaël Hamel pour tous ces mois de loyaux services et aux administrateurs de Radio Taïga. Restez à l'écoute de votre indispensable radio locale et de ceux et celles qui nous suivent. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!
sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonsoir chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non. Ah chérie, j'arrive. Ce qu'on sort du four, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30. Oh ben!
Vous écoutez maintenant...